Alors nous allons ouvrir le premier livre des rois, au chapitre 17, verset 1er. J'avais titré « Prendre soin des autres », mais également, et je crois que c'est ce qui ressort, c'est le secours de Dieu, hein, le secours divin. Des fois il est direct, des fois il est par un intermédiaire, parce que Dieu est souverain, et je crois qu'il faut savoir accepter, hein, que c'est Dieu qui nous visite, que c'est Dieu qui nous fait du bien, que c'est Dieu qui nous relève, ou que c'est Dieu qui nous guérit. Amen. Un roi 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie donc, en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Élie a vécu sous le règne d'Akab, un souverain apostate, qui s'est tout simplement détourné des voies de l'Éternel. Malheureusement, il a entraîné à sa suite un peuple, je dirais complaisant, hein, parce que pour le suivre, il faut être complaisant, qui n'avait pas à cœur justement l'observation de la loi de Dieu. Et il n'avait pas à cœur de faire cela. Alors ce roi insoumis s'est classé, il faut le savoir, parmi les plus rebelles à Dieu. Et pour toutes ces raisons, eh bien Dieu a exprimé un jugement sous la forme d'une période de famine, de sécheresse, dans le but, parce que Dieu a un but toujours, hein, ne fait pas ça gratuitement, eh bien dans le but que le peuple se repente et qu'il revienne tout simplement de ses mauvais choix pour aimer et servir l'Éternel lui seul. Amen. Dieu a toujours un but. Dans chacune de ses actions, il y a quelque chose que Dieu désire. Alors 3 ans et demi vont passer. Et dans le chapitre suivant, nous voyons qu'Élie, eh bien, réapparaît. Et là, il rencontre Akab. Il a avec lui une conversation au cours de laquelle, justement, il met, comme je dirais, les points sur les i et les barres sur les t. Puis, il va lancer un défi, tout simplement, eh bien, au faux prophète, au roi lui-même, et puis à tout le peuple, bien sûr, hein. Un roi 18-21 nous dit qu'Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Bon. Quand vous comptez sur beaucoup et qu'il y a peu au final, c'est frustrant. Et je pense qu'il y avait certaines frustrations, eh bien, dans le cœur d'Élie, bien sûr. Alors, comme le montre le roi 17, Élie a été exposé à de grandes difficultés. Bien sûr, ça a frappé sa nation, hein. Bien qu'étant un homme pieux, qui vivait, eh bien, une réelle communion avec son Seigneur, il le servait de tout son cœur, bien sûr. Et l'histoire, finalement, de cet homme remarquable rappelle que des chrétiens, eh bien, ne sont pas épargnés par, je dirais, les conséquences du péché dans leur contexte. Hein, on n'est pas épargné, hein, bien sûr. Alors, Jésus n'a jamais promis, je dirais, à ses disciples d'être retirés, mis à l'écart du monde, comme sur une autre planète ou sur une île déserte, hein, mais pas au contact, surtout de la corruption. Pas du tout. Hein, il l'a vécu lui-même, hein, donc, par contre, il a garanti son secours. Il a garanti sa présence, son soutien, afin que, justement, eh bien, nous soyons soutenus dans les épreuves de la vie. Parce qu'on va les appeler comme ça, c'est des épreuves de la vie. Amen. Jean 16, 33 nous dit que c'est Jésus qui parle, il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc des épreuves, si nous en avons, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Faut pas croire qu'on est dans le péché, qu'on est jusqu'au cou, là. Non, pas du tout, hein. Parce qu'on est au contact d'une population corrompue, d'un peuple, justement, qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait plus distinguer la droite de sa gauche, etc., hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul a parlé des temps d'apostasie. Ouais. Dans les derniers temps, il dit, le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Alors, c'est pas étonnant, hein. Mais il dit, prenez courage. Parce que malgré ce que vous voyez, moi j'ai vaincu le monde. Et puis il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes pas seul. Amen. De la même façon, Élie a dû affronter un contexte hostile, pénible. Mais ce qui est sûr, c'est que la grâce de Dieu, eh bien, elle s'est manifestée d'une manière puissante dans sa vie. Parce que il a vécu du miracle. Hein. Et plus rien. Rien ne poussait. C'était la sécheresse. Hein. Eh bien, il a vécu du miracle. Ainsi, on voit une chose, c'est que le Seigneur a orienté, il a guidé tout simplement son serviteur afin de pourvoir à ses besoins, et comme nous l'avons lu dans notre contexte, dans le texte d'introduction, bien sûr. Alors la Bible, tout simplement, invite à des positions de foi. Elle nous invite à choisir le bien, à choisir tout simplement peut-être la voie la moins facile, mais c'est celle de Dieu. Il faut la choisir. Amen. Donc, on nous invite à des positions de foi, par exemple, pour rejeter l'inquiétude, l'anxiété, et se laisser remplir d'assurance pour que le Seigneur puisse pourvoir. Si je m'attends en même temps à Dieu et que je vais frapper à la porte de la société, je vais dire, bon, ben, frappe, vas-y. Hein. Mais si je reste confiant, que je tourne les regards vers lui, que eh bien je cherche tout simplement son secours à lui et pas autre chose, eh bien, il se manifestera. Amen. Dieu pourvoit en toutes circonstances. Dans Matthieu 6, versets 25 à 34, je ne vais pas tout le lire, mais Jésus va prendre l'exemple des oiseaux du ciel et des lys des champs, hein, qui, personne ne les entretient, personne ne fait rien pour eux. Ils sont nourris, ils sont revêtus, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Hein. Il en conclut en disant, eh bien, dans Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Et il dit à chaque jour suffit sa peine. Et t'entends dans la société. Ah, écoutez, chaque jour suffit sa peine. T'as eu dit, c'est la Bible ça. Eh oui, mais oui. Alors dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Il le fera en Jésus-Christ. Amen. En Jésus. L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, dira lui aussi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a une démarche d'autre part. Hein? Vous voyez hein? Tout simplement s'approcher. Hein? Lui faire confiance. Invoquer, bien sûr. Lui demander. Et Dieu entend. Amen. Alors, durant cette période de famine et de désœuvrement, Élie n'a manqué de rien. Il a été, je dirais, directement secouru par Dieu. Il n'y avait aucun secours intermédiaire. Dieu pourvoit. Il a donné à manger, vous l'avez lu avec moi. Hein? Il a donné bien de la viande, du pain. Le matin, il a fait deux repas. Hein? Fait deux bons repas, hein? La viande et le pain. D'accord? Il y avait du torrent qui coulait déjà, hein? Encore bien sûr. Alors, notre Dieu est grand. Je le crois, pour prendre soin de chacun de ses enfants, de façon particulière. Amen. Il n'a besoin de personne, je dirais, pour se glorifier et manifester son secours dans la vie de ses créatures, de ceux qu'il a, eh bien, ceux qu'il a appelés, qui lui ont répondu. Amen. Alors, ce qu'il requiert de nous, c'est simplement la foi, ben, la confiance. Amen. Si je dis, mon Dieu pourvoira tous mes besoins, ben, il faut dans mon cœur, je le crois. Amen. Je suis dans la disette, c'est difficile, je ne sais plus où le bonheur, que sais-je encore. Mais je fais confiance au Seigneur, je lui demande. Il me voit, il sait, parce qu'il voit tout. Même à l'intérieur de nos cœurs, quand nous ne parlons pas. Et dans notre esprit aussi, il sait. Donc à partir de là, eh bien, je lui demande, je reste dans une position de confiance, et puis il va pourvoir. Amen. Regardons quelques instants l'exemple de Paul. Alors qu'il est devant le Sanhédrin, ça chauffait pour lui, comme on dit, le tribunal juif de l'époque. Acte 23, verset 11. Le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Alors, selon le contexte d'acte 23, Paul comparé devant ce tribunal, un tribunal juif, le Sanhédrin, était composé de religieux implacable, hein, c'était des fondamentalistes. On les appelait comme ça parce que il y a des noms aujourd'hui. Hein. Ils ne reconnaissaient pas, bien sûr, pour la grande majorité d'entre eux, eh bien l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus. Ils avaient vu ce que Jésus avait fait. Faire marcher le paralytique, ressusciter un mort, il a donné à manger à une population qui était importante. Il n'avait rien, c'était le désert. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y a supérette du coin, non. Il n'y avait rien. Et il leur a donné à manger, des pains et des poissons. Il en est même resté 12 corbeilles. Hein. Et oui. Alors, Paul, nous le savons, c'est un homme qui a souvent été persécuté. Il a été frappé, il a été emprisonné par ses hommes, bien sûr. Alors, il a besoin de réconfort. Eh bien, le Seigneur lui apparaît. Et voilà qu'il lui communique une exhortation et un encouragement. Il lui dit, prends courage. Amen. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, ça, moi je peux le dire aussi. Mais venant de Dieu, Dieu qui vous dit, prends courage. Ça revêt, je dirais, autre chose. Hein. Amen. Dieu qui s'adresse à lui, qui lui dit, prends courage. Et je dirais que Paul, comme tous les humains, eh bien, a dû gérer ses limites, ses faiblesses, bien sûr, ses impossibilités, à cause de son humanité. Il était comme nous, un homme de la même nature que nous, bien sûr. Alors, les nombreux miracles, les exploits vécus par ce disciple, ne doivent pas nous faire oublier rien qui n'était pas un extraterrestre. Amen. Ça arrive que des champions y tombent. Hein. Eh oui, eh oui. Il était donc de la même nature que nous, comme Élie. Comme Élie. Donc il a rencontré le découragement, l'abattement, la détresse, la tristesse, sachant ses réalités. Qu'est-ce qui se passe? Jésus ne reste pas comme cela à l'observer. C'est quand tu vas craquer? Pas du tout. Jésus intervient directement pour renouveler tout simplement les forces de l'apôtre Paul. Amen. Prends courage. Et ça, ça lui redonne du courage. Amen. Ça lui redonne des forces. Vous savez, quand on traverse l'épreuve, on peut, à des moments, douter de la fidélité et de l'amour de Dieu. Il arrive que, également, on soit troublé au point de ne plus être sûr de marcher dans la bonne direction. Seigneur, dis-moi si je suis là où tu veux que je sois. Et oui, vous savez, les expériences faites avec le Seigneur ainsi que ses promesses, ses projets et sa parole, eh bien, je dirais, sont quelquefois remises en question par ses enfants. Alors, le Seigneur va dire ceci. Hein, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Parce que Paul, serviteur de Dieu, eh bien, a dû se poser des questions. Est-ce que je suis encore dans le plan de Dieu? Est-ce que j'ai pas bien entendu ce qu'il m'a dit? Ou est-ce que je suis allé dans la bonne direction? Est-ce que j'ai pas pris ce désir-là pour une réalité, un désir propre à moi? C'est peut-être pas le désir de Dieu, oui. C'est comme ça. Alors, le Seigneur lui confirme qu'il est dans la bonne direction. Tu as rendu témoignage à Jérusalem. Il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. En ne t'inquiète pas, ce tribunal, il est là. Parce que je le permets, parce qu'il va me servir, tout simplement. Tu apporteras la parole plus loin, hein, jusque dans Rome. Amen. Et comme Paul, bien dans la marche chrétienne, je crois qu'il y a la nécessité d'avoir une information ou comme une révélation de la conduite à tenir et de l'orientation à donner tout simplement à sa vie. Amen. Partons pas sans avoir demandé au Seigneur. Amen. Il se passera quelque chose. Si vous ne parlez pas directement à l'oreille, là, hein, ou dans votre esprit, il y aura une circonstance, une porte qui va se fermer, une porte qui va s'ouvrir. Amen. Quelqu'un qui va vous appeler, j'ai besoin de toi. Voilà la réponse. Hein? Et puis on y va. Et puis Dieu, bien, tout simplement, nous conduit. Hein. Vous savez, lorsque la tempête d'Acte 27 a éclaté pendant la traversée maritime, hein, Paul faisait route vers Rome, et comme Jésus lui avait indiqué, eh bien, il était dans son plan. Mais devant la violence des éléments déchaînés, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui était dans la paix, tranquille, c'était Paul. Le reste, eh bien, ils perdaient tout espoir, même de conserver leur vie. Mais Paul et lui, bien sûr, qui était avec lui, au milieu de la tempête, eh bien, eux étaient en paix. Et le Seigneur va donner une confirmation de la bonne direction empruntée par cet homme de Dieu, accompagné également de ce serviteur. Amen. Et je dirais que, eh bien, les circonstances contraires peuvent nous amener au doute. Eh oui, à la remise en question. C'était pas la volonté de Dieu. Pourtant, on a vu le sentiment que c'était bon, c'était ça. Voyez, ça peut arriver, bien sûr. Mais ce qui est formidable, c'est que dans sa sagesse, le Seigneur, lui, dans sa préscience, eh bien, va intervenir afin justement de nous rassurer et de certifier que c'est le bon choix que nous avons fait. Amen. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on est secouru dans les difficultés, dans les épreuves. À d'autres occasions, Paul eh bien, a bénéficié du secours direct du Seigneur, là aussi sans aucune intervention humaine. Il le dit lui-même, hein, 2 Timothée 4, 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » C'est lui, personne d'autre. Amen. Ah, des fois, il y en a qui disent, « Ah, si un ange venait, si le Seigneur apparaissait là, ah, si je pouvais entendre directement sa voix. » Ça peut arriver, bien sûr, hein. Parce que Dieu peut le faire, hein. Non ? Ben oui, ben oui. Pierre, lui, a été délivré de sa prison par des anges. Oui ? Il n'y avait l'assistance de personne. Les portes sont ouvertes, les anges étaient là, les chaînes sont tombées, et ils ont dit, allez, viens ! Peut-être qu'il avait la berlue, il disait, oh, je suis en plein cauchemar, oh, putain, en plein rêve, pardon. En plein rêve, hein. Pas un cauchemar de voir des anges qui vous délivrent, hein, qui vous font sortir. Ben, d'ailleurs, il a pris conscience qu'à la sortie. Eh oui. En tout cas, ces expériences peuvent être vécues à n'importe quel moment par ses disciples, les disciples de Jésus, même, je dirais, par des inconvertis quelquefois. Hein. Eh oui, nous marchons par la foi, mais eux, ben, le Seigneur a pitié d'eux, et quelquefois, ils se révèlent de certaines manières, et ils se montrent. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la conversion d'un homme de Dieu. Je crois qu'il était en Allemagne. Ah, je ne sais plus comment s'appelle cette ville. Dans l'Est, les pays d'Est. Ah, vas-y. Non. je ne me rappelle plus. Bon, le Seigneur lui dit, va dans cette ville. Parce que lui, il avait ses parents convertis aux États-Unis. Il est américain. Il avait ses parents convertis. Lui, il voulait des preuves. Mais il ne les avait pas. Et donc, il a voulu visiter l'Europe. Il était parti en Europe. Il était en Allemagne. Et là, le Seigneur lui dit d'aller. Là, ça ne viendra pas. et puis, donc, il y va. Et il a dit, quelqu'un va me parler de toi, va te parler de moi plutôt. Il arrive dans cette gare, et là, un homme vient droit vers lui, lui parler. C'était un chrétien. C'est un chrétien, non, il y a deux histoires comme ça. Mais non, là, c'était comme un ange, puisqu'après, il ne l'a plus vu. Cet ange lui parle, ce personnage lui parle de Jésus, hein, il veut des preuves, donc comme s'il le connaissait, il lui donne telle preuve, telle preuve, telle preuve, et puis le temps de se retourner, cet homme avait disparu. Donc lui, il met ça sur le compte d'un ange qui est venu lui parler tout simplement. Amen. D'autres que je vais vous parler, c'est Sarajevo. C'est à Sarajevo, voilà, ça se passe là-bas. Voilà, en tout cas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Cependant, la manière la plus courante employée par le Seigneur pour secourir directement bien un enfant de Dieu, c'est l'action de l'Esprit. Cette action qui rafraîchit la mémoire, par exemple en rappelant les Écritures. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, nous la retenons, nous ne la retenons pas, mais je sais une chose, c'est qu'au moment voulu, Dieu nous donnera la parole. Amen. Il donnera la parole qui convient au moment pour que justement on soit fortifié. Et lorsque la Bible est lue, méditée, retenue dans un esprit de prière, eh bien l'Esprit est capable de nous fournir au bon moment, hein, la parole qui convient, la bonne attitude tout simplement, parce que c'est la parole de Dieu. Une remarque cependant, un enfant de Dieu reçoit, je dirais, le passage biblique approprié à partir du moment où il a pris le temps de le consulter auparavant. Amen. Eh oui, c'est important, hein. Pas partir quelque part sans à l'aventure, comme on dit, hein, sans avoir consulté celui qui a pris notre vie en charge, tout simplement. Hein. De même, le Saint-Esprit est capable d'utiliser des événements, parfois des détails de la vie de tous les jours, eh bien, pour pouvoir parler sans intermédiaire aux croyants, ainsi l'exhorter, l'encourager, l'éclairer. Je vous ouvre un petit peu certaines expériences que j'ai pu vivre. Un dimanche matin, je me rendais donc de la ville où j'étais, on partait vers une annexe, et je partais au culte, et pendant qu'on roulait en voiture, une voix me dit, ce matin, quelqu'un va te chercher des noises. Quelqu'un va essayer de te perturber. Bon. Puis, ça, hein. Moi, je pensais même pas à ça. Hein. Et puis, le culte se déroule normalement, je pensais même plus. Et puis, à la fin du culte, quelqu'un se lève, et quelque part, il m'envoie de ses paroles. Et c'est là que ça me réunit, j'ai dit, waouh, tu m'as parlé. Bon, j'ai eu la bonne attitude, du coup, hein. J'ai pas rendu les points. Non, mais, ben oui. Mais le Seigneur est celui qui nous parle. Hein, il a fait ça plusieurs fois, il a fait ça pour moi. Hein. En tout cas, donc Dieu sait, hein, il sait nous éclairer, nous encourager. Voilà qu'Élie a vécu des miracles au quotidien quand il s'est réfugié, je dirais, selon le conseil de Dieu, près du torrent de Kérit. Il a bénéficié de l'assistance de Dieu, sans aucune intervention, hein. Je parle en tant qu'humain, bien sûr. Lorsque l'eau, eh bien, a commencé à manquer, le Seigneur aurait pu continuer, lui, eh bien, à pourvoir à ses besoins directement, hein. Cependant, eh bien, il va le conduire tout simplement dans une autre direction. Et là, il va lui permettre d'être soutenu par quelqu'un, un être humain, une femme. Amen. Alors, il a ainsi fait une expérience qui a complété la précédente. C'est-à-dire que Dieu manifeste sa grâce en secourant directement ses enfants, mais il choisit aussi des instruments humains pour accorder son secours. Amen. Est-ce que vous croyez que vous pouvez servir au salut de quelqu'un, pour secourir quelqu'un? Bien sûr, on va en parler un petit peu plus bas. Ça fait partie de notre vocation, de notre appel. Hein, sauver pour servir. Amen. De plus, si Élie a vécu un nouveau miracle à Sarepta, hein, la veuve et sa famille ont pu, par l'intermédiaire d'Élie, et au travers de ces circonstances dirigées par le Seigneur, eh bien, expérimenter eux-mêmes, concrètement, la puissance et l'amour de Dieu. Amen. Puisque la farine n'a pas diminué, hein. Lui, il a toujours été là. Et bien sûr, alors le Seigneur, lui, a utilisé un contexte éprouvant, dramatique, la famine, qu'elle a entraîné, bien sûr, la mort, pour bénir et sauver ceux qui l'aimaient. Amen. Acte 14, 19 et 20 nous montre que Paul, eh bien, a failli mourir suite à la lapidation dont il a été victime. Vous savez qu'il a été lapidé, hein. Et c'est quand il cite, eh bien, un petit peu tout ce qui lui est arrivé, on fait, parce que c'est beaucoup, hein, ce qui lui est arrivé. Alors, le Seigneur aurait pu, bien sûr, le relever, le rétablir, sans aucun moyen humain. Cependant, dans cette circonstance, qui est douloureuse bien sûr, voilà que le secours de Dieu s'est manifesté par la présence, je dirais, de la chaleur de ses disciples. Il est dit que les disciples l'ayant entouré. Amen. Une autre version traduit, les disciples s'empressèrent autour de lui. Amen. Donc on imagine aisément l'élan, la détermination de ces croyants, bien sûr, pour porter assistance à leurs frères. Et bien sûr, leur priorité était l'aide et le soutien à manifester. Hein. Donc Paul a été entouré, il a bénéficié de la protection de ses frères et de ses sœurs, bien sûr, et des soins également qui ont été prodigués avec amour. Bien, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Amen. Il a été secouru par ce moyen. Il a aussi été restauré. Mais également, eh bien, il a été renouvelé sur le plan moral et spirituel de voir qu'il était aimé. Amen. De savoir que ses frères et sœurs l'aimaient réellement. Ils l'ont manifesté, ils l'ont prouvé. Ils se sont mis en avant et ils y sont allés. Quelque part, ils se sont dévoilés. Hein. Parce que si on lapidait Paul, eux aussi, ça aurait été quand même chaud. Hein, bien sûr. En tout cas, la Bible souligne que nous sommes constitués de trois parties. Corps, âme, et esprit. Et ces trois sphères nécessitent, eh bien, de l'attention. Donc, Dieu a prévu la bonne santé à tous les niveaux. Hein, il souhaite également agir dans sa grâce pour également un développement harmonieux de tout notre être, bien sûr. Alors ici, l'Église, eh bien, est responsable de considérer les besoins physiques, amen, moraux, ou psychologiques, si vous voulez, et spirituels, je dirais, à chaque individu, qu'il soit membre de l'Assemblée, ou non. Amen. Notre rôle, c'est de pouvoir secourir. Ils sont allés vers Paul, eh bien nous pouvons aller vers Lucien, par exemple. Ou Anne, que je ne connais pas. Hein, mais voilà, ou que je connais. Mais c'est comme ça. Donc une des grandes forces des chrétiens, ça réside dans leur prière. Dans la prière, leur vie de prière. C'est pourquoi nous prions, eh bien, afin que les malades soient guéris, bien sûr, au nom de Jésus, que les cœurs brisés, dépressifs, abattus soient restaurés, délivrés, amen, que les esprits également fermés à l'évangile s'ouvrent et reçoivent la lumière qui va révéler, eh bien, l'amour de Dieu, mais également le salut que Dieu veut leur procurer. Ça fait partie de notre rôle, amen. La croissance d'une assemblée, eh bien, on le dépend dans une large part de la teneur en amour de ses membres. Amen. Nous avons chanté, nous devons nous aimer les uns les autres, bien sûr. Et lorsque les sentiments et le caractère de Jésus sont exprimés, eh bien, ça marche. Dieu se réjouit. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 et 4, verset 9 à 10, Paul fait un éloge remarquable à cette église, l'église de Thessalonique, en mettant en avant la réalité et la profondeur de leur amour. Alors, quand cette vertu, eh bien, est manifestée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont secourus. Sont encouragés, ils sont valorisés, ils sont renouvelés. Amen. Non pas par le Seigneur directement, mais indirectement par des canaux de bénédiction que nous devons être. Amen. Eh oui. Parce que Dieu a à sa disposition, normalement, des canaux de bénédiction ici-bas. Et nous devons être, nous, ces canaux de bénédiction pour secourir ceux et celles qui, eh bien, que le Seigneur met sur notre chemin. Amen. Comme les disciples autour de Paul, hein, pressons-nous de quelque part de nous entourer déjà les uns les autres. Amen. Hein, afin que dehors ils voient que nous nous aimons, bien sûr. Puis soyons attentifs aussi aux besoins, eh bien, d'autrui. Hein, d'autres ont besoin de nous. Amen. Nous allons le faire selon les capacités de chacun, bien sûr. Hein, de ne demande pas l'impossible. Hein, je ne vais pas pouvoir aller parler à Monsieur Macron, par exemple. Mais le Seigneur va se charger de notre. Il va en amener un autre. Hein. Vous savez qu'à la Chambre des députés, nous avons un pasteur qui siège, qui fait un travail pastoral formidable. Au Sénat aussi, hein, parce que c'est les deux chambres. Hein. Voilà, il est là et il parle à ses hommes et ils viennent le consulter quand c'est une question d'éthique morale. Hein, ils viennent voir un petit peu avec lui et ils le rencontrent et il a participé il n'y a pas longtemps justement à un colloque avec les personnalités de l'État et ses personnalités donc élues. Voilà, ils étaient conviés donc à venir avec un autre frère du CNEF justement pour eh bien parler avec eux. Voilà ce que dit la Bible, voilà ce que nous croyons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alors dans Jérémie 38, verset 7 à 13, je vais finir. Et Ebed-Mélec a soutenu la cause de Jérémie auprès du roi Sédécias. Vous voyez, il est intervenu. Quelque part, il a voulu le secourir, il a voulu l'aider. Donc, il était intervenu pour délivrer, eh bien, le prophète. Vous savez qu'il avait été jeté dans la fosse, dans la citerne, hein, ou dans le puits. Voilà. Alors, il est quelque part l'image du disciple qui prend du temps pour intercéder en faveur de ceux qui ont besoin d'une délivrance, tout simplement, dans leur vie. Amen. Pouvons le faire. Intercéder, prier, assiéger au trône de la grâce. Amen. Néanmoins, Ebed-Mélec ne s'est pas contenté de plaider en faveur de Jérémie, mais il a aussi agi afin d'apporter, je dirais, une aide concrète, tout simplement, et c'est là qu'il a été un instrument de sa libération. Il s'est mouillé dans l'affaire. Il est allé plaider sa cause. Ils n'ont pas été justes avec lui. Pas normal qu'il soit là, lui. Pourquoi lui? Eh oui, voyez, et c'est comme ça. Alors intercéder pour les autres, je dirais que c'est précieux, hein, savoir intercéder. Les uns pour les autres. Amen. Alors, que Dieu nous aide, hein, à savoir prendre soin des autres, également à savoir s'attendre à recevoir de la part de Dieu directement. Ça peut être indirectement, comme vous l'avez vu, hein. Ça peut être quelqu'un que Dieu nous envoie. Et puis nous-mêmes, nous pouvons être un instrument pour quelqu'un d'autre. C'est à nous à justement savoir, eh bien, écouter, savoir prendre du temps, prier. Seigneur, fais de moi un instrument. Ok, je t'ai entendu. Ça va se passer comme ça, hein? Seigneur, sers-toi de moi. Ok, c'est bon, je retiens. Et puis, il y a du temps, ou ça peut être tout de suite. Hein? Parce que quand, par exemple, quelqu'un a à cœur une personne dans son esprit, hein, c'est arrivé que des personnes soient réveillées en pleine nuit et elles faisaient dans l'esprit quelqu'un. Prier, il faut le faire. Il faut intercéder là, il faut le faire. C'est le moment. Parce que Dieu vous a choisi pour justement eh bien être moyen de secours pour son enfant. Amen. Donc il faut y aller, il faut le faire. Et puis quelques temps après, vous apprendrez. Ou pas. Mais normalement, on apprend pour être encouragé. Hein? On apprend que cette personne avait besoin de Dieu. Elle est passée par un moment difficile. Elle était entre la vie et la mort. Amen. Eh oui. Un matin, alors que l'heure était presque passée, l'ambulance sonne. Donc j'étais d'ambulance, hein, j'étais de VSAB, comme on dit. Et puis on arrive à Monteux, entre Monteux et je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme ville après. J'oublie beaucoup de choses, moi. Et oui. Et puis là, il y avait une collision de deux voitures. Et dans une de ces voitures, il y avait une chrétienne de l'Assemblée de Carpentras dont je faisais partie. Elle me voit arriver. Elle était inconsciente, mais elle me voit arriver, elle s'est réveillée. Bernard, prie pour moi, appelle mon mari. Poum, elle retombait dans le coma. Vous voyez ? Ça, c'est Dieu. Bon, elle ne m'aurait pas demandé de prier, j'aurais prié pour elle quand même. Hein. Mais voilà, ça l'a rassurée. Dieu avait envoyé un de ses enfants. Elle m'a dit plus tard, elle m'a dit quand je t'ai vu, elle m'a dit ça a été la lumière, quoi. Hein. Voilà. On a besoin. Eh bien, Dieu sait comment nous encourager. Amen. Bon, je râlais un peu parce que c'était presque l'heure de départ. Hein. Il fallait rentrer à la maison, laisser la place à d'autres. Hein. On a fait 24 heures. Mais bon, ben on fait son boulot. Et puis, quand on est envoyé par Dieu, ben, qu'est-ce qu'on se fait du bien. Hein. Amen. Le temps ne compte plus, là. Que Dieu nous aide tout simplement à vivre ces temps. Gloire à Dieu.